Pour parler de train à l'heure de choix importants sur la transition écologique, de la mutation du marché par l'ouverture à la concurrence et bien d'autres défis, comme celui d'arriver à finir le circuit de train miniature du petit neveu, nous avons tout simplement ailé un conducteur. Nous recevons Jérôme, mon ami, conseiller régional d'Occitanie, membre de la commission transport et commission urgence climatique, vice-président de la régie régionale des transports de la Haute-Garonne et accessoirement cadre transport mouvement à la SNCF.
CPU carré petit utile.
Alors monsieur mon ami, comment vous en êtes venu à travailler sur les trains?
Comment je suis venu à travailler sur les trains? Complètement par hasard, en fait. Mais là, ça a été un concours de circonstances où j'habitais à l'époque à Orange. Et j'avais un copain de moto qui habitait sur Gap et je suis monté faire un tour de moto. Il travaillait dans une gare au-dessus de Grenoble, à Clèle, Mince, la petite ligne des Alpes qui est entre Gap et Grenoble. Et il m'a dit, c'était en 99, au moment des 35 heures. Et il m'a dit, mais Jérôme, il cherche du monde, là. Fais passer un CV, quoi. Et donc, j'ai passé un CV. Et trois mois après, j'étais à l'école SNCF pour apprendre à faire rouler des trains. Donc, c'est complètement dû à 28 ans. Et c'est absolument aucune voir avec aucune passion. J'ai joué au petit train électrique dans mon enfance, mais ça n'a absolument rien à voir avec
et
ça.
Et la lecture de La Vie du Rail, ça vous a pas un petit peu émoustillé avant?
Non,
ou vous y êtes venu après?
C'est venu après. En fait, je connaissais absolument rien au chemin de fer. Et par contre, j'ai découvert un monde de camaraderie, un monde où vous parliez dans votre introduction de, oui, il y a des liaisons avec le monde numérique, hein, on gère des flux avec des procédures de sécurité, c'est binaire parfois, c'est 0 1, c'est soit c'est 0 ça passe pas, soit c'est 1 ça passe, il y a pas entre les deux.
Oui, un aiguillage ça marche pas entre deux,
hein. Non, ça déraille.
Adieu le chat de Schrödinger. Quelle est votre formation, en fait? Alors, vous dites que vous avez commencé à 28 ans, mais vous aviez quoi comme formation avant?
Alors, moi,
c'est pas indiscret.
Non, c'est pas indiscret du tout. Hein. Ouais, j'ai un bac électronique, à l'époque où il y avait que le silicium, le Pentium n'existait pas. Hein. Voilà, après, c'est 90, on faisait de la programmation.
Oui, ok,
sur
on était encore au 386 à l'époque, je me reconnais.
Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Et après, j'ai travaillé à bricoler un peu à droite à gauche. J'ai passé un CAP d'arboriculture. J'étais ouvrier agricole, en fait, avant de rentrer au chemin de fer. Et je taillais les vignes sur Châteauneuf du Pape, sur les grands crus.
D'accord, dont l'électronique, le bois dont on fait les travées, on n'était pas loin. Donc,
oui,
et par
ça.
La suite, donc, vous avez suivi donc une formation d'apprenti, une formation continue justement.
Alors après, ça a un peu changé aujourd'hui les méthodes de formation, mais ça revient toujours à peu près à la même chose. Enfin, on part trois mois à l'école où on apprend à faire rouler les trains, mais c'est-à-dire qu'on part de zéro. On apprend la signalisation, le cantonnement. Après, je ne sais pas si on va vraiment sur du technique, mais. Comment on fait rouler les trains en voie unique, en double voie, enfin, toutes ces choses-là. Et pendant trois mois, chaque fin de semaine, il y a un contrôle. Et si le contrôle n'est pas bon, vous rentrez à la maison. Et au bout de trois mois, il y a un examen final. Et là, vous avez l'examen d'agent en mouvement.
D'accord. Donc, il y a un vrai contrôle continu
ça.
Ah ouais, ça s'est suivi, quoi. Oui. Alors, je précise en fait que votre bureau de travail en temps normal, c'est la gare Matabiau, qui n'est pas aussi belle que la gare de Limoges, mais quand même.
Ça dépend du coucher de soleil.
Ça dépend du coucher de soleil. Enfin, bientôt, là, on va avoir une tour de 150 mètres en érection, qu'on appelle le Moudin Kiki, vulgairement, dans l'émission.
Oui, c'est vrai qu'on peut penser à un mesurage de bits.
Voilà. Mais quelles sont exactement vos responsabilités?
Alors, en fait, je travaille en 3-8. Alors, bon, ça a changé un petit peu vu que j'étais élu conseil régional, mais jusqu'à ce que je sois élu, moi, ça fait donc une vingtaine d'années que je travaille en 3-8. Donc, j'ai passé des examens internes où je suis arrivé agent de maîtrise pendant un an de formation et aujourd'hui, je suis cadre. Et mon rôle dans le poste d'aiguillage de Matabiau, donc c'est un poste informatisé qui a 2 ans, qu'on vient d'ouvrir. Et c'est gérer, on est une dizaine de personnes à l'intérieur et je suis le chef de poste. C'est-à-dire que je dis aux autres comment faire rouler les trains et je suis là en cas de pépin. Voilà. Et, et j'organise en fait les 8 heures pendant lesquelles on assure la circulation des trains sur Matabiau, mais pas que, parce qu'on a 150 km de ligne quand même. On gère jusqu'à Boussens, jusqu'à Carcassonne, et la partie Empalo, la partie Haute-Rive. Donc, et la gare Matabiau qui est quand même conséquente. Hein. 500 trains, 500 mouvements par jour. Il y a des moments où ça s'empile. Ouais.
Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'habitent pas sur Toulouse, je vous promets, on vous proposera une carte dans les liens de la documentation, au moins la carte de l'agglo pour que vous compreniez un petit peu là-dessus. Mmh. Alors, vous dites que l'aiguillage, en fait, est informatisé depuis 2 ans?
Ça fait bien une vingtaine d'années où il y avait des prémices d'informatisation, mais ça restait... Il y a toujours une crainte à la SNCF, c'est l'accident. Hein, et toute la réglementation, en fait, est faite de l'histoire du chemin de fer. Il y a eu un accident, on a trouvé une solution en face. Et la SNCF, jusqu'à aujourd'hui, était relativement frileuse par rapport à l'informatique, parce que la fiabilité, hein, il faut pas que...
Comme l'aérien, il a fallu beaucoup de temps, mais c'est exactement pour les mêmes raisons.
C'est les mêmes raisons, comment on assure la sécurité, hein, parce qu'on a quand même un TGV avec 600 personnes à l'intérieur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais le danger, ça se gère. Hein. Mais et donc oui, on va dire que ça fait une bonne dizaine d'années où ils ont commencé à mettre l'accélérateur. Avec les... Oui.
Les jeux de mots sont contaminants ici. Ouais.
Et on arrive là, ils ont en projet 2036, il y aura plus qu'une vingtaine de postes d'aiguillage sur tout le territoire français qui géreront l'ensemble. Donc il y a encore de la marge. Hein.
Donc, ils vont réduire le nombre de postes d'aiguillage
Oui. Oui. Je ne sais pas si on peut en parler, mais... Là, ça correspond à suppression d'une quarantaine de personnes, en fait. On est 40 dans le poste. Avant, pour faire rouler le même nombre de trains sur les mêmes distances, on était 80, quoi.
Alors, c'est marrant parce que moi, ça me rappelle une BD qui a 25 ans maintenant, qui s'appelle Le réflexe de survie de Étienne Davodeau. C'est l'histoire d'un chef de gare qui vit toujours dans sa gare. Il y a toujours ses copains qui viennent le voir, où la ligne est très peu exploitée. Et puis, un jour, il a une crise cardiaque. Donc, les copains commencent à paniquer. Il y a le train qui arrive, etc. Il disait qu'il fallait tourner tel levier, etc. Et il se pointe et il se rend compte qu'en fait, c'est informatisé depuis un bail. Et qu'il est là juste comme ça. C'est une excellente BD d'Étienne Davodeau. Je la recommande sincèrement. Et du coup, la répartition va être comment? Puisque, en fait, c'est très étoilé, c'est très jacobiniste, le rail en France.
C'est son histoire.
Pour des raisons historiques.
Ouais. L'histoire, on peut y aller ou pas?
Oui, parce que l'histoire des compagnies privées.
En fait, jusqu'en 1937, création de la SNCF, c'était les compagnies privées qui étaient réparties sur le territoire. Paris, Lyon, Méditerranée, ici la compagnie du Midi, Orléans, compagnie du Nord, etc. En 1937.
Et chacune avec leur grande gare à Paris. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et c'est comme ça qu'a été créé le Monopoly.
Peut-être.
Alors, puisqu'on parle justement de mon ancienne vie de chroniqueur BD, il y a une série en 3 tomes que je recommande, qu'on m'a recommandé dans la collection Grand Angle chez Bambou, si je me trompe, de Piadsec et Bossard. Ça s'appelle Kilomètre Zéro et c'est l'histoire en fait de la ligne de chemin de fer qui va de Strasbourg à Bâle, qui était à l'époque la plus grande ligne de chemin de fer internationale et c'était dans les années 1830. C'est un destin croisé entre justement les grands bourgeois, les très grandes richesses qui construisaient cette ligne et la masse populaire. Certains sont contre, d'autres en profitent, en vivent et apprennent à maîtriser la machine. Mais bon, ça, on va pas rester dans la bête humaine. J'étais obligé de passer du Jean Gabin. Pourquoi avoir choisi spécifiquement l'aiguillage plutôt que conduire une grosse machine?
Parce que je suis rentré par là à la SNCF à cet endroit-là et que le métier me plaît. Moi j'ai vais avoir 25 ans de carrière et je me retrouve à avoir la gare Matabio dans ma main, c'est excellent. Et de jouer au Tetris avec les trains, parler de jeu tout à l'heure là. L'histoire des 30 secondes, c'est une réalité. On est à 30 secondes aux heures de pointe en termes de régularité.
Et qu'il faut vraiment que tel quai soit vide parce qu'il y a l'autre train qui arrive depuis Mazamet.
À l'entrée, voilà, c'est ça. C'est faire un train à l'heure, c'est un miracle. C'est un miracle quotidien hein, parce qu'il faut machines, il faut mécano, il faut que les rails soient en état, il faut que les aiguilles soient en forme. jouer avec le temps et avec l'espace, en fait, hein, c'est ça. Je pense que ça peut parler à certains informaticiens, ça.
Oui, mais c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a les grands furieux. Certains oublient un petit peu trop vite que, justement, le transport ferroviaire, c'est pas uniquement le trafic passager. Quelle est la plus grande part actuelle du transport ferroviaire en France? Le trafic passager ou celui de marchandises?
Celui de marchandises, on est presque proche de zéro, là. On doit être sur la part modale du ferroviaire dans le terme de transport de marchandises globalement, je crois que c'est autour de 6%, quoi. Donc,
ah ouais, mais
y a
c'est
de
absolument
la marge. Ah oui, c'est oui, oui, oui. C'est, on a, il y a vraiment une grosse marge de progression. Après, ça s'explique à 2006-2007, ouverture à la concurrence. Là, on fait de la politique, hein, mais ouverture à la concurrence du ferroviaire de marchandises. Et ben, la première chose qu'a fait la SNCF, c'est fermer 500 gares au fret. Et donc,
oui, on se souvient de l'altermoiement sur le train frigo qui partait de Perpignan
jusqu'à Rungis. Ouais. C'était une bataille pour qu'ils se remettent en route. Hein, ouais. Et il y a beaucoup, beaucoup de Perpignan-Rungis. On est passé avec cette réforme à 1 million de camions en plus sur les routes. Mmh. Donc oui, le fret, il y aurait de quoi en parler des heures et voir ce bel outil. Hein, parce que moi, j'ai travaillé à Miramas dans un très, très gros triage. On avait et les copains se battent pour le préserver, hein, mais un super outil de travail pour pouvoir trier les wagons avec un système informatique qui a été créé dans les années 90 avec des ultrasons qui calculent la distance qui reste entre le wagon qui est arrêté et celui qui roule.
Ouf.
Et avec des freins de voie dans les voies, parce que les wagons sont pas freinés, en fait. Ils sont à la butte, c'est la gravité, hein. Et ça calcule la pression du frein sur les roues pour que le wagon arrive juste à coller.
C'est, ah ouais,
ah oui, c'est
la haute mécanique, ça. C'est la mécanique.
Et c'est géré par ordinateur. Ben, de toute façon, les écrans, je ne sais pas, parce que ça fait un petit moment que je n'y suis plus, mais c'était des écrans chromatiques il y a encore une dizaine d'années. Hein. Enfin, monochromatiques. Mais c'est un système hyper fiable.
Alors, ça, je n'en doute absolument pas. S'il est encore en service, c'est que ça devait l'être. Monsieur Jérôme, mon ami, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, c'est pourquoi vous parlez avec autant de passion aussi bien de la machine et de vos collègues, c'est que, on peut le dire peut-être, c'est que vous êtes délégué syndical.
Oui.
Ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi un élément qui, à mon sens, justifie aussi justement votre présence là-dessus, sur la manière d'aborder aussi bien la partie matérielle que la partie humaine, justement, dans ce métier. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jérôme, mon ami, chef circulation à la SNCF, pour parler des trains qui arrivent souvent à l'heure. Si, si. Bon, après, la marge de retard et tout, hein, c'est là où on peut jouer là-dessus. Bon, enfin. Depuis les débuts de préparation de cette émission où on a commencé à se croiser, c'était il y a 2 ans, vous êtes passé de cadre à la SNCF à élu politique, puisque vous êtes désormais conseiller régional, dans la majorité d'ailleurs du conseil régional. Quels sont les plus grands défis à venir pour le rail, d'après vous ?
Ah ben là, c'est le rail a de l'avenir, donc ben c'est comment on le développe au niveau de la région, mais aussi au niveau de l'État, et comment on fait avec l'État, avec la métropole aussi sur Toulouse, et la région Occitanie avec Carole Delga, pour développer le ferroviaire. Hein. On arrive à un moment où ben, y a un problème au niveau écologique, hein, nier qu'il y a un changement climatique... C'est quand même compliqué. Et puis aussi un problème social, économique, hein, mise en place de la ZFE, le gasoil, le prix du carburant qui explose, tout ce qui va avec. Donc à un moment, le train, oui, il a de l'avenir. Et c'est comment un système qui a été enterré, hein, à un moment, en 95, M. Alain Juppé, il voulait fermer 11 000 km sur les 30 000 qu'il y a sur le réseau. Hein.
Oui, mais lui, il s'en fout tant que le TGV arrive à Bordeaux. Ça...
Oui. Ben, là aussi, c'est une bataille pour qu'il vienne jusqu'à Toulouse et qu'éventuellement, il aille jusqu'à Narbonne pour qu'on ait une liaison entre...
Entre les deux capitales, oui.
Bon, non, mais puis surtout, Barcelone et puis Nice. Hein. Après, ça veut faire une diagonale quand même Bordeaux-Nice-Italie qui peut être intéressante plutôt que de prendre l'avion. Hein. Donc oui, il y a des gros enjeux aujourd'hui sur le ferroviaire. Hein, mais c'est...
Et ce serait bien de pouvoir marier quand même la salade de Nice avec un bon Bordeaux.
Oui. c'est ça.
Quelle serait la meilleure échelle décisionnaire finalement pour le relever d'après vous ? Ce serait au niveau européen ou au niveau départemental ?
Il faut tous les niveaux. Pour moi, c'est une infrastructure...
Même pour les passages à niveau ?
Ah ben après, c'est sur le train, ça.
C'est une question d'EDE, je précise.
Il faut avoir une vision. Enfin, c'est une infrastructure qu'on peut comparer avec ce qu'il y a entre les data centers. C'est une gestion de flux, ce sont des flux, en fait, hein, les trains. Donc, il faut bien un moment qu'il y ait, au niveau de l'Europe, des décisions qui soient prises pour créer des routes européennes. Bah, on parlait de Bordeaux-Vintimille. Ça traverse plusieurs départements, plusieurs métropoles, plusieurs régions, même plusieurs pays, parce qu'on peut aller voir aussi ce qui se passe du côté du Pays Basque. On peut imaginer une liaison. Enfin, donc, il faut cette échelle européenne. Moi, il faut l'échelle nationale aussi, parce que le train de nuit, par exemple, dépend de l'échelle nationale. C'est une décision nationale, c'est une décision politique du ministre des Transports.
Certains trains de nuit sont carrément des trains européens. Hein. Je crois me souvenir qu'il y en a un qui va de Paris jusqu'à Vienne.
Oui, tout à fait. Ouais. Et après, l'échelon régional pour les dessertes fines du territoire, où quand même, c'est nous qui sommes le plus proches de ce qui se passe sur le terrain et de ce qu'ont besoin les habitants, les gens qui habitent en Occitanie, par exemple.
Alors la question, elle est quand même politiquement sensible, mais pour moi, elle est intéressante à poser. Qu'est-ce que la privatisation a détruit dans le train en France ?
Waouh ! Elle a détruit le collectif de cheminots. Fabriquer un train, c'est toute une chaîne humaine, avec des moyens, du matériel, mais surtout avec des femmes et des hommes qui construisent ce train. C'est-à-dire, il faut entretenir la rame, il faut entretenir les voies, il faut des gens aux aiguillages, il faut des gens sur les quais, des gens qui vendent le billet, même si l'informatique se développe de plus en plus. N'empêche qu'il faudra toujours des guichets, parce que certaines personnes sont un peu handicapées au niveau informatique, hein, c'est comme ça. Hein.
Ça s'appelle l'électronisme, un cinquième de la population.
Et pas que des anciens, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Certains jeunes qui ont des difficultés. Et en fait, c'est cette chaîne-là qui est détruite et qui fait que du coup, ça marche moins bien. Moins bien, c'est-à-dire qu'on ne se parle plus ensemble. Le rail a été séparé de la roue, en fait. Et aujourd'hui, ça devient un problème, puisque on se retrouve avec plusieurs entreprises qui ont un but, c'est gagner de l'argent et pas forcément faire rouler les trains. Et ça commence à se voir. Et la privatisation, c'est une décision européenne, hein. On parlait d'échelle de décision, c'est une décision européenne. Quel intérêt la SNCF a aujourd'hui à aller concurrencer la RENFE sur le territoire espagnol, alors qu'on n'arrive pas à faire rouler correctement les trains en France, quoi. Ça, c'est de la politique.
On a vu l'échec que ça a donné au Royaume-Uni, où ils en sont à renationaliser en catastrophe.
Ah, oui.
Alors, puisque vous savez qu'on est une émission de radio et que l'ARCOM surveille attentivement mon émission, et donc je suis obligé d'avoir mon quota de questions MEDEF, qu'est-ce que la privatisation a apporté au train ?
Qu'est-ce qu'elle a apporté au train ? Alors là, moi, je vois pas trop, en fait, ce qu'elle a apporté de positif. On en revient à l'histoire, quoi. À un moment, la création de la SNCF, elle est parce que ce sont des sociétés d'économie mixte un peu dispersées sur tout le territoire qui n'y arrivent plus. Parce que le train, le ferroviaire, n'a jamais rapporté d'argent. De mémoire, je crois qu'au moment de la création de la SNCF, l'ensemble des réseaux, ils sont à 24 milliards de francs de l'époque de déficit.
Ouais, il y a même un réseau qui était passé dans le public plutôt que les autres, plutôt que partir directement en banqueroute.
C'est ça. Donc, à un moment, le ferroviaire, ça doit dépendre de l'État, comme beaucoup d'infrastructures, comme les autoroutes, même au niveau de l'industrie. À un moment, l'État doit avoir les cartes en main et le métro privé. Enfin, on le voit aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça fonctionne mieux ? Moi, c'est tout ce que je me pose comme question. Est-ce que ça fonctionne mieux ? Alors, certes, il y a certains tarifs locaux, c'est juste comme ça, mais est-ce que l'usager s'y retrouve ? Est-ce que le citoyen s'y retrouve en termes de services, en termes de tarifs et en termes de réponse à ses besoins de transport ? Moi, j'en suis pas persuadé. Ce qui est positif, c'est pour les entreprises de béton, je ne vais pas les citer, qui sur les 10 années qui viennent, savent qu'ils ont un maximum d'argent avec les différents niveaux de sous-traitance et tout ça à faire dans le ferroviaire. Par contre, ils ont gagné aujourd'hui.
Je n'aborderai pas la question de l'application SNCF Connect.
Qui a été faite par un sous-traitant.
Ça, c'est autre chose. On se retrouve donc maintenant avec une infrastructure ferroviaire qui est gérée par une entreprise publique sur lequel interviennent différentes entités et pas que la SNCF dessus. Comment les différentes entités arrivent à discuter entre elles ?
Ils n'ont pas le choix.
Et est-ce que des fois il y a des crashs un petit peu violents ?
En pose aiguillage, nous on le ressent pas du tout, parce que vraiment notre but c'est la sécurité. C'est que les trains arrivent à l'heure et en entier. Mais c'est d'abord en entier et après, c'est de le faire à l'heure. Donc, on le ressent pas trop, nous, en pose aiguillage. Après, j'imagine qu'à très haut niveau, ça doit friter pour avoir les sillons horaires, parce que bon, les voies, entre Toulouse et Montauban, il n'y en a que deux, donc on ne peut pas faire passer 50 000 trains en même temps. Hein. Mais, et après, c'est surtout une guerre commerciale, comme je vous parlais de la SNCF qui va en Espagne, mais aussi les Italiens qui viennent en France. Est-ce que c'est efficace? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça permet aux gens de laisser leur voiture en garage et de prendre le train? Je vous laisse chercher la réponse.
Je dirais que pour un Toulouse-Paris, comme par hasard, on a un avionneur chez nous. Hein. Je dis ça, je dis rien.
Bah, c'est complémentaire. Hein. Moi, je pose pas l'avion et le train. Hein. C'est complémentaire. Hein.
On a vu des tentatives de relancer des lignes de chemin de fer abandonnées avec des structures de type coopératif comme Rail Coop à Figeac pour lancer la ligne Lyon-Bordeaux qui existait. Alors, est-ce qu'ils utilisent du matériel roulant neuf ou réchappé, si je peux me permettre ce terme?
Après, ils ont déjà des difficultés à en trouver. Et normalement, c'est du matériel d'occasion. Et après, ils se rendent compte que d'un coup, bah oui, faire rouler des trains, ça coûte cher, quoi. Et puis, cet aspect coopératif, moi, c'est qu'une façade. Hein. Alors, on a des collectivités territoriales publiques qui utilisent l'impôt pour financer une entreprise privée pour faire rouler du fret entre Figeac et Toulouse, alors qu'on a une entreprise ferroviaire nationale qui dépend aussi de fonds publics et qui pourrait faire rouler ce train. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a des actionnaires, hein, ils appellent pas comme ça, hein, et l'autre qui en a pas. Hein, l'autre, c'est... mais en plus, bon, faut gratter un peu, mais je pense qu'il y a de la République en marche là derrière. Enfin, Renaissance maintenant.
On va pas remettre ça. combien de ces structures actuellement, justement, d'opérateurs de trains dits alternatifs régionaux existent?
Alors les alternatifs, bon, Rail Coop. Et après, toutes les alternatives, en fait, ce sont des filiales SNCF. C'est ce qui s'est passé au fret. Hein. En fait, là, il y avait Feli, par exemple, qui est une filiale SNCF qui avait été créée au départ pour permettre d'avoir des locotracteurs dans les usines pour pouvoir faire les manœuvres.
On peut comprendre, oui, parce qu'il y avait des lignes de chemin de fer privées.
En fait, dans une usine, on peut comprendre tout à fait qu'une entreprise n'a pas forcément l'envie de former des salariés pour trier ses wagons. Et donc, ils faisaient appel à cette filiale qui met à disposition le contracteur, agent de manœuvre et tout ça. Et cette filiale était transformée aujourd'hui où elle vient directement en concurrence avec les cheminots. En fait, on retrouve tous les opérateurs historiques d'une manière ou d'une autre. La seule différence, c'est qu'à chaque fois, bah, c'est les collectifs qui sont pétés et puis les conditions, le droit du travail qui est mis à mal, quoi.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jérôme Monami, chef circulation à la SNCF, pour parler d'un sujet qui roule, forcément. Je ne vais pas revenir sur le fait que la SNCF ne bénéficie pas des mêmes investissements que ses confrères japonais. Ça serait aussi impoli que de pointer du doigt, mais est-ce que vous connaissiez le point and calling, ou donc le Shinsakanko en version originale?
Ah non, ça je ne connaissais pas du tout. Après, je peux comprendre tout à fait le cheminement intellectuel.
Vous pensez que...
Pour arriver... Ouais, mais il y a des similitudes avec ce qu'on fait en pose d'aiguillage ou sur les quais, en fait. Alors, on pointe pas du doigt avec des gants blancs.
En hurlant, mais... ça ferait peut-être monter plus vite les passagers dans le train.
Oh non, un peu de douceur dans ce monde de brut, quand même. Mais... on a quand même, comme je vous parlais tout à l'heure, de manière à fonctionner binaire, hein, pour faire rouler des trains. Il y a un petit côté aussi psychorigide à l'intérieur. Moi, ça me fait penser à ça, en fait, le coup des gants blancs. Et quand on a un train en panne, on a une procédure et on commence à un point A et on va jusqu'à Z, mais on fait tous les autres entre-temps. Avec parfois... moi, ça m'est arrivé, hein, de parler à ma table d'aiguillage. C'est une méthode pédagogique, hein, en fait, de dire ce que vous faites pour faire travailler le cerveau. Et quand dans des situations un peu perturbées ou des procédures qu'on maîtrise tout, hein, on n'est pas là non plus. On a la vie des gens entre les mains. Hein. Mais sur des procédures qu'on n'a pas d'habitude de mettre en œuvre, en fait, le fait de parler à haute voix et dire « alors là, il faut que je fasse comme ça, en fait, c'est, c'est un bon garde-fou pour éviter les bêtises. Hein.
En informatique, on a une stratégie pour ça, ça s'appelle le canard en plastique jaune. Et quand on n'a pas un canard en plastique jaune pour expliquer ce qu'on est en train de faire, on prend un stagiaire. Le Shinkansen japonais, d'ailleurs, a toujours été présenté comme un concurrent du TGV français. Vous, vous avez déjà vu un petit peu de près, justement
Ah non, je connais absolument pas les trains japonais.
Et pourtant, il y a un culte autour. D'ailleurs, des fois, ils les habillent complètement aux couleurs d'un film, d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo. Ça vous ferait quoi, franchement, en tant qu'élu CGT, si la SNCF faisait un train aux couleurs steampunk pour fêter Jules Verne, par exemple?
Bon, ça pourrait être sympa, non? Ça pourrait être sympa. Après, ils le font de temps en temps. Par exemple, là, il y a la Coupe du Monde de rugby dans un an. Et là, il y a un train du rugby qui est en train de circuler, qui est filmé aux couleurs de la Coupe du Monde. Ça arrive parfois.
Voir des wagons qui servent d'exposition, qui font un tour des tours hangars, c'est plutôt intéressant. Pour préparer cette émission, moi, j'ai sagement lu les tweets absolument passionnants et instructifs de Wilfried Dermare, alias BB27000. Pour quelqu'un qui souhaite en savoir plus sur le métier de conducteur ou les métiers supports dans les chemins de fer, quelles autres sources vous conseilleriez ?
Venir parler avec les cheminots. Enfin, la SNCF, enfin les SNCF maintenant, parce qu'il y a 5 entreprises, ça touche à peu près à tout en fait. Ça va de la circulation des trains, l'entretien des voiles, l'entretien des rames, le commercial, l'informatique. On a de plus en plus d'outils informatiques d'ailleurs. Là, on a un poste informatisé qui n'a pas été fabriqué par des cheminots d'ailleurs. C'est sous-traité. Et donc, il y a vraiment une grande palette de métiers chez nous. Vraiment. Et moi, je joue au petit train avec des vrais, en fait. Et ça, c'est quand même pas mal, non?
Oui, ça, je n'en doute absolument pas. On arrive au terme de cette émission, donc on arrive à la fin du voyage et l'arrivée, ce n'est pas ce qui importe le plus en général. Mais dernière question, et celle-là, elle est vraiment personnelle. Je serais surpris si vous accepteriez d'y répondre. Quel est votre train favori?
Mon train favori? Moi, je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, donc j'ai commencé sur la ligne des Alpes entre Gap et Grenoble et on faisait rouler des RGP. C'était des rames grandes pleines, en fait. Mais c'est vieux, ça n'existe plus. Hein. Et dedans, c'était des moteurs de Panzer, en fait.
Ils ont récupéré aux Allemands.
Oui, mais c'est exact. C'est des trains qui ont été fabriqués, des rames qui ont été fabriquées aux sorties de la guerre, en fait, hein, qu'on a relancé le ferroviaire. Et avec un bruit vraiment particulier, un bruit de péniche, en fait. Moteur diesel qui roule, qui doit tourner à 2000 tours minute à fond, quoi. Et avec 3 vitesses, et vraiment un bruit caractéristique. Et quand vous êtes dans. C'est une petite ligne qui est au pied du Vercors, en fait. Et vous entendez le train avant de le voir, en fait. Et vous l'entendez monter, et ce bruit qui résonne dans toute la vallée, là, c'est sympa, c'est de la poésie même.
Je n'en doute pas. Jérôme, mon ami, merci beaucoup d'être venu en parler à cette antenne, dans une émission qui parle du numérique, en tant que chef aiguilleur dans une gare, et aussi en tant qu'élu syndical et politique. C'était intéressant d'avoir votre triple point de vue. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.